Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4. Nouradine Agne.
À l'occasion de la semaine de l'environnement organisée par l'association ICAR à l'université de Versailles-Saint-Quentin, c'était au mois d'avril dernier, une conférence sur l'urgence climatique était animée par la chercheuse Jeanne Gérardi. Marmite FM vous propose d'écouter un extrait de cette conférence.
Moi, je suis Jeanne Gérardi, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Je suis rattachée à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin et au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc, ça fait beaucoup d'acronymes après mon nom. Donc, voilà, et je travaille sur les thématiques du changement climatique. J'ai une formation de paléoclimatologue, donc j'étudiais les climats du passé. Mais je ne vais pas vous parler de ça ce soir, je vais vous parler de ce que c'est le climat, et pour essayer d'aborder la question, j'ai utilisé un support qui est à présent en ligne et que je vous encourage même à aller voir si ça vous intéresse. Ça a été produit par l'Office for Climate Education, et ils ont utilisé le rapport du GIEC, le GIEC étant le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui produit régulièrement, tous les 6 ans, des rapports, un état des lieux sur le changement climatique à destination des décideurs politiques. C'est un organisme intergouvernemental. L'inconvénient, je dirais, de ces rapports, qui sont très fournis, qui sont une synthèse de milliers d'articles de scientifiques, qui sont synthétisés pour en extraire la substantifique moelle, et puis qui sont ensuite décortiqués pour pouvoir faire passer un message aux décideurs politiques. L'inconvénient de ces rapports, c'est que parfois, ils sont compliqués. Ils restent compliqués d'accès, les graphismes restent compliqués d'accès, etc. Donc, le Office for Climate Education, ils ont travaillé. Enfin, le GIEC est bien conscient de cette difficulté de communication, et les enjeux de communication sont énormes à l'heure actuelle. Donc, il y a de vrais efforts de fait pour s'ouvrir à un plus grand public. Donc cette publication, elle est à destination, dans un premier temps, des enseignants, pour donner les éléments aux enseignants, pour s'adresser à leurs élèves, etc. Donc je me suis dit, je vais repartir de ce support-là, parce que je me dis, ça s'applique à tout le monde, ça sera, au moins on n'est pas dans un public de spécialistes, etc. Et ce rapport en particulier n'est pas le rapport du GIEC, n'est pas le dernier rapport du GIEC, mais c'est le rapport qui s'intitule 1,5 degré, qui a été publié à l'automne dernier, qui a fait grand bruit. On en a pas mal parlé dans la presse. Et ce rapport, il a été commandé à l'issue de la COP21, quand on a eu un petit moment d'euphorie au moment de la signature de cet accord de Paris, qui préconisait de faire tous les efforts, ou les pays, quand même, tous les pays de la COP, 193 pays ont été signataires quand même de cet accord, donc s'engageaient à fournir les efforts pour réduire le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire même en dessous de 1,5 degré. Donc c'est sous la pression des États insulaires, donc des petits États insulaires du Pacifique essentiellement, que le fameux 1,5 est arrivé, et c'était assez surprenant, on va dire, dans tout le processus de négociation. Et en fait, il y a eu un vrai besoin de connaissances sur quelle est la différence entre limiter le réchauffement à 2 degrés versus le limiter à 1,5 degré. Est-ce que c'est vraiment important de faire cet effort d'aller jusqu'à 1,5 degré ? Et donc ce rapport montre que oui, c'est super important de faire l'effort de se limiter à 1,5. Dans un premier temps, commençons par le début. Enfin, peut-être que c'est peut-être pas la reine, mais commençons par le début. De quoi on parle ? Météo ou climat ? C'est quoi la différence entre les deux ? On est souvent un peu confus quand on parle de ah, voilà, et là ça fait 3 jours qu'il fait une chaleur incroyable, oh là là, mais c'est le réchauffement climatique. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas ? Maintenant là, c'est un épisode météorologique, de forte chaleur, qui dure 3 jours, mais c'est de la météo, ce n'est pas du climat. Le temps météorologique, ce sont vraiment ce qu'on appelle les fluctuations à court terme, les variations au jour le jour, au quotidien, mais à l'échelle de la semaine et du mois, de tout un tas de paramètres climatiques, tels que la température, les précipitations, le vent, l'humidité, tout ce genre de paramètres. Et ça correspond en gros à tout ce qui concerne la circulation atmosphérique. Donc vous avez tous entendu parler d'anticyclones, de dépressions qui vont se déplacer d'un endroit à l'autre. Et selon si elles sont sur l'Atlantique, vont nous ramener de l'air humide, ou si elles sont coincées sur les continents, on va avoir des périodes plus sèches ou plus froides, etc. Alors que le climat, ça représente un état moyen, c'est une moyenne calculée sur plusieurs années, dizaines d'années, milliers d'années, voire millions d'années. On est vraiment sur la moyenne de ces paramètres climatiques dont je vous ai parlé, donc de ces températures, ces couvertures de neige ou de glace, de ce vent, etc. Si on faisait une analogie un petit peu pratique, le climat, il va vous indiquer quels vêtements vous allez acheter. La météo, elle va vous indiquer quels vêtements vous allez porter. Donc on n'est pas dans la même dynamique. Donc il faut vraiment avoir en tête que quand on parle de climat, globalement, on fait une moyenne sur 30 ans de l'ensemble de ces moyennes-là pour pouvoir qualifier le climat et l'étudier. Le climat au sens plus général, c'est également l'étude de l'état du système climatique, et je vais vous présenter donc du coup qu'est-ce que le système climatique, parce que le système climatique, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Il faut imaginer une énorme machine thermique. Avec les étudiants, je fais souvent l'analogie du moteur. On ouvre le capot d'une voiture et on voit un énorme, enfin peut-être pas les voitures récentes mais les voitures d'avant, où il y avait tout un tas de trucs qui étaient combinés, qui se reliaient les uns aux autres, et puis moi j'ai jamais compris comment ça marchait ces trucs-là. Mais c'est le système climatique, j'ai eu la curiosité de l'étudier, donc j'ai un peu compris comment ces différents éléments de ce système, ils se combinent entre eux et comment ils interagissent entre eux. Système climatique, donc c'est un ensemble de 5 composantes principales, que sont l'atmosphère, l'océan, La cryosphère correspond à toutes les glaces, donc ça peut être aussi bien les calottes arctiques et antarctiques, mais également tous les glaciers continentaux. Ça correspond également à la biosphère, tout ce qui est en lien avec la végétation. Et le dernier correspond au sol, mais plus généralement à l'hydrosphère, donc ce qui correspond à l'eau douce, en comparaison à l'océan, l'eau salée. Okay, donc on a 5 paramètres, et ces 5 paramètres interagissent entre eux. Et chaque mouvement d'un paramètre peut avoir des conséquences sur un autre paramètre, sur une autre composante du système climatique. C'est ça qui va rendre cette machine thermique un petit peu complexe. De plus, ce système climatique, il va répondre à certaines influences, qui sont des influences externes, telles que... Là, il y a le terme changement tectonique. C'est en lien avec l'activité interne de la Terre. Donc l'activité volcanisme, par exemple. Une activité volcanique peut avoir une conséquence sur le climat. Des éruptions volcaniques importantes qui vont émettre beaucoup de poussière dans l'atmosphère et beaucoup de CO2 vont avoir un impact sur le climat. On parle également des changements orbitaux. C'est en lien avec la position de la Terre par rapport au Soleil. Et le mouvement que fait la Terre par rapport au Soleil. Et ce mouvement, il évolue régulièrement. Et on appelle ça les paramètres orbitaux. Il y en a plusieurs, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais les variations de ces paramètres orbitaux génèrent des variations climatiques également. Il y a également l'activité solaire. Qui va avoir des conséquences sur le système climatique. Et enfin, il y a tout ce qu'on appelle les activités anthropiques, donc qui sont en lien avec les activités humaines. Et donc l'ensemble de ces causes, donc ces influences externes, vont agir sur les cinq composantes du système climatique et ça va générer des réponses en interne, donc au sein de ce système climatique. Ça va générer des changements au niveau de l'atmosphère, donc sur la circulation des masses atmosphériques. Ça peut générer des changements au niveau de la cryosphère, donc avoir accumulation ou une diminution, une fonte drastique des glaces, telle qu'on peut le voir en ce moment. Mais également, on peut avoir des changements océaniques, parce que on le verra un petit peu, enfin, je ne m'attarderai pas, mais on verra que l'océan, c'est une composante très importante de ce système climatique, parce qu'il a une capacité thermique très importante. Il peut accumuler beaucoup de chaleur et il peut en redistribuer beaucoup également. Les causes externes, donc ces influences externes, elles peuvent aussi avoir des influences sur la biologie. Et la biologie, enfin ces influences peuvent avoir, donc auront des répercussions sur le système climatique. Et enfin, le changement des sols a également, peuvent être affectés. Donc les sols peuvent être affectés par ces différentes influences externes. Donc voilà, ce système climatique, c'est une grosse machinerie avec cinq composantes principales qui réagissent à des influences externes et qui répondent donc de manière interne à ces influences externes. Et donc l'étude du système climatique, elle va en gros consister, enfin, quand les climatologues donc, ils vont étudier le système climatique et les variations du changement climatique, ça va consister à définir quelles sont les variations, quelles sont les réponses internes du système climatique qui ne sont pas liées ni aux changements tectoniques, ni aux changements orbitaux, ni aux changements solaires. Quels sont les changements qui sont liés à l'influence humaine ? Et c'est ça le travail qui est mené par les scientifiques impliqués dans le GIEC, par exemple, c'est de vraiment d'identifier quelle est la part anthropique, donc la part liée aux activités humaines, dans le changement climatique. Il va sans dire, je tiens à le préciser, que l'ensemble de ces influences externes, donc depuis toujours, a fait évoluer le climat sur Terre. Et on est passé par des climats très chauds, des climats très froids, au cours des millions, enfin des milliards, des 4,5 milliards d'années qu'existe la Terre, on a eu des climats très différents sur cette histoire géologique. Mais nous, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est l'influence humaine sur ce système climatique. Pour bien comprendre cet élément-là, du coup, il faut également expliquer ce qu'est l'effet de serre. Parce que c'est également une notion dont on parle souvent. Mais en quoi consiste l'effet de serre ? En fait, ça consiste au fait qu'il y a une partie de l'énergie qui provient du Soleil en traversant l'atmosphère qui va atteindre la surface de la Terre. En atteignant la surface de la Terre, ça va chauffer la Terre. Donc du coup, la Terre, quand elle chauffe, elle va émettre un rayonnement infrarouge qui va être réémis, renvoyé en partie vers l'espace. Mais il y a une sorte de couverture qui est ce qu'on appelle donc les gaz à effet de serre. Enfin, donc l'atmosphère va être est composée de différents gaz, dont des gaz à effet de serre, qui vont permettre de piéger une partie du rayonnement infrarouge. Donc au lieu que tout soit réémis vers l'espace, une partie est conservée à l'intérieur du système, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une température de moins 18 degrés, on a une température moyenne de 15 degrés. Donc grâce à l'effet de serre, on a une température où on a pu avoir l'instauration de la vie sur Terre. Donc l'effet de serre est un avantage que notre planète a. Sauf que, si on peut comparer l'effet de serre à une sorte de couverture qui est composée donc de différents gaz à effet de serre, tels que le gaz carbonique, le CO2, le méthane, CH4, ou l'eau, qui est le plus important gaz à effet de serre, tous les nuages sont composés d'eau, etc. Le fait d'augmenter l'épaisseur de cette couverture, c'est ça qui va poser problème. Parce qu'on va, par notre activité industrielle, depuis le 1850, on a libéré beaucoup de CO2 qui était piégé dans les réserves fossiles telles que le charbon, le pétrole, etc. Et du coup, tout ce CO2, enfin tout ce gaz qui était, enfin tout ce carbone, ce gaz carbonique, pardon, qui était piégé, il est réémis dans l'atmosphère et il a épaissi la couverture. Et c'est ça, c'est ce phénomène auquel on assiste à l'heure actuelle. Ce qui fait que, effectivement, l'émission de gaz à effet de serre entraîne ce qu'on appelle le changement climatique. En français, on a pris le parti d'utiliser le terme changement climatique plutôt que réchauffement climatique, en traduction à global warming que les anglo-saxons utilisent, parce que c'est pas si simple que ça, c'est pas qu'un simple réchauffement. C'est un réchauffement peut-être global, mais qui a des répercussions qui sont plus complexes que ça. Ça fait que même si on stoppait dès maintenant, si on stoppait mais vraiment toute émission de dioxyde de carbone, la température, elle se stabiliserait, mais elle ne diminuerait pas pour autant. Il faudrait un long temps avant que les températures commencent vraiment à diminuer, il faudrait le temps que mettrait tout le CO2 qui est pour le moment dans l'atmosphère, qui soit à nouveau piégé par le phénomène de puits de carbone qui sont naturels et qui peuvent se trouver à différents endroits des composantes. Pardon, oui. Par exemple, oui. Et je voulais juste préciser également, parce que c'est un petit peu, à la base, c'est un peu ma spécialité, de préciser le rôle clé que l'océan peut avoir dans le système climatique à différents points. Donc j'évoquais tout à l'heure que c'est une... de par la capacité thermique de l'océan, l'océan absorbe quasiment plus de 90% de l'excès de chaleur qui est accumulé dans le système climatique. Donc pour le moment, c'est ce que toutes les mesures, et on le verra tout à l'heure, c'est ce que toutes les mesures indiquent, l'océan il se réchauffe, il accumule, et le fait qu'il se réchauffe, ça nous permet de nous pas complètement bouillir. Donc l'océan se réchauffe, au départ ça ne se fait qu'en surface, mais là on s'aperçoit que jusqu'à 700 mètres de profondeur, donc la surface, les premiers 700 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 700 mètres d'épaisseur, sont affectés par le réchauffement. Donc c'est là qu'il y a la plupart des espèces qui vivent, donc évidemment ça a des conséquences sur la biodiversité marine et sur d'autres choses. L'océan aussi, il est très très important parce que c'est un puits de carbone naturel. Un puits de carbone, c'est ce qui va permettre de piéger le CO2. Et par différents mécanismes, que je ne détaillerai pas du tout maintenant, le CO2 va être piégé par l'océan. Donc jusqu'à maintenant, on a du mal à l'estimer ça par contre. Mais on pense que l'océan, il concentre 50 fois plus de carbone que l'atmosphère. Et de la même manière, il agit un petit peu en effet tampon. Tout le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, il y a une bonne partie qui est piégée par l'océan. Donc ce qui fait que ça, pour le moment, ça réduit l'effet de serre. Sauf qu'on va arriver à un moment où l'océan ne va pas être en mesure, parce qu'il y a des principes biologiques qui sont en cause, et quand si ça reçoit trop de CO2, l'océan il va devenir ce qu'on appelle, on va parler d'acidification des océans, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça va affecter ce qu'on appelle la pompe biologique, donc c'est en lien avec toute l'activité marine qui vont piéger le CO2 au travers de la photosynthèse, etc. C'est un petit peu, je dirais pas une bombe à retardement, mais c'est un petit peu ça quand même. Mais je suis pas là pour être alarmiste, c'est simplement pour... c'est surtout que l'océan reste une des composantes qui est sans doute la moins maîtrisée de l'ensemble du système climatique. C'est tellement vaste, et ça a été longtemps, on va dire, ça a moins suscité d'intérêt. C'est en train de changer, on est dans une autre dynamique, on s'aperçoit que le système climatique doit être envisagé dans son ensemble et les travaux du GIEC ont largement contribué à tout ça. Et un des prochains rapports du GIEC qui va sortir en 2021, je crois, portera justement sur le rôle de l'océan et de la cryosphère. Donc par réchauffement ou changement climatique, on va considérer essentiellement l'augmentation de la température moyenne à la surface de notre planète. Sauf que ce paramètre-là, il est un petit peu biaisé parce que il y a déjà des régions, et je pense qu'une de mes collègues parlera un peu plus longuement, déjà des régions qui sont qui connaissent des réchauffements qui sont déjà bien plus importants que 1,5, et en particulier en Arctique, le réchauffement il est déjà au-delà de 2 degrés, le réchauffement observé. Donc, et de la même manière, une augmentation moyenne de la température globale, elle a d'autres conséquences sur le système, enfin sur le cycle de l'eau, par exemple. Ce qui fait que ça va générer, ça va entraîner des modifications, des précipitations. On va assister à ce qu'on appelle des phénomènes de précipitations très fortes, de plus en plus réguliers, par exemple. Donc on va avoir des modifications qui vont affecter l'ensemble des paramètres climatiques. Alors un autre point qui est aussi important, c'est le fait que ce changement climatique il se manifeste sur deux échelles de temps qui sont relativement différentes. Et on va avoir ce qu'on appelle donc les événements extrêmes, qui vont être des événements précis, très courts, par exemple les ouragans qui vont se produire dont on observe que la tendance est à l'intensification à leur intensification, mais le nombre d'ouragans ne va pas pour autant augmenter. Ils seront plus forts, mais pas forcément plus nombreux. Statistiquement, c'est ce qui est observé pour le moment, et c'est ce qui est modélisé. Et sur des changements plus progressifs qui s'installent sur plusieurs décennies, tels que l'augmentation du niveau marin ou la fonte progressive également des glaces. Et du coup, ces deux échelles de temps, parfois, elles se rencontrent parce que quand on a des épisodes de fortes pluies prolongées qui sont combinées avec les périodes de haute marée, par exemple, le fait que l'eau va vraiment complètement ronger et assister à des inondations monstres au niveau des régions côtières. Et ça, c'est la combinaison donc, de ces événements extrêmes et de ce changement plus progressif sur du plus long terme.
Vous pouvez retrouver ce sujet en libre écoute et en téléchargement sur le podcast de la radio à l'adresse suivante marmitefm.canalblog.com. Merci à tous.
C'était Un micro dans la ville, présenté par Nouradine Agne.